les Français, à force d'immigration incontrôlée.
Claude Guéant en chevalier blanc de la laïcité.
Le gouvernement déploie du coup 16 000 hommes sur le terrain dès ce
soir. Qu'est-ce que la faillite de la Grèce?
On choisit de vivre à crédit, il faut qu'il paye.
On va passer à la troisième et dernière partie de notre émission, que dorénavant on va appeler droit de réponse. Parce que vous savez, dans l'histoire récente des médias, il fut une émission qui ne peut être considérée que comme culte, le fameux droit de réponse de Michel Pollack. Et en hommage, toutes les semaines, nous tenterons de marcher dans ses pas. C'est l'opus 3 d'In Vino Veritas, jingle. Voilà, et ben c'était le jingle de Droit de Réponse, cette fameuse émission de Michel Pollack sur la première chaîne dans les années 80. Madame le maire, s'il vous plaît, quittez votre habit de rédactrice en chef, redevenez celle que vous êtes depuis 2004, la première magistrate de la ville de Montpellier, capitale de l'aglo, du département et de la région, c'est quand même pas rien, et permettez au loup et le renard que nous sommes de reprendre leur poste, de vous poser quelques questions divergentes. Si vous voulez bien, on va parler un petit peu de gouvernance. C'est la mode. Est-ce que vous avez enfin trouvé le cabinet de vos rêves ?
Oui, absolument, tout va bien, tout va bien. Vous savez, je crois qu'il ne faut surtout pas se fier aux commentaires divers et variés, parce que les êtres humains étant ce qu'ils sont, je crois que chacun veut le pouvoir de l'autre. Bon, mais ça, c'est comme ça, c'est humain. Moi, je suis très, très contente d'avoir le cabinet que j'ai. C'est vrai que depuis 2 mois et demi, j'ai mon directeur de cabinet qui était absent. C'est peut-être ce qui a fait que certains ont essayé ils ont essayé un petit peu d'agiter. Bon, il était absent pour des raisons de santé. Et donc, voilà. Alors, effectivement, 2 mois et demi sans directeur de cabinet, ça pose un problème, d'autant plus que la pression est sur les autres. Et donc, ceux qui font des commentaires feraient mieux de regarder un petit peu et de respecter, notamment quand il y a une absence. C'était une absence totalement justifiée. Et si le directeur du cabinet était absent, c'était pour raison de santé.
Tout à fait, tout à fait. Mais, dans La Glorieuse, vous avez forcément remarqué une grande interview de Charles Coury. Vous avez un petit mot à lui dire ?
Je ne l'ai pas vu parce que ce jour-là.
Il veut se présenter à votre place en 2014, entre autres choses. Écoutez, ça fait un de plus.
Moi, je pense que je ne ferai aucun commentaire. Moi, je vais vous dire, je réponds aux personnes que j'estime. C'est tout ce que j'aurai à dire.
Et Christian Assaf, qui aujourd'hui dans Midi Libre, fait savoir que, en fait, Monsieur Moore serait l'avenir de Montpellier.
Écoutez, c'est lui qui le pense. Et je le laisse. C'est pas parce que
on est en démocratie. Il en profite.
Monsieur le député, dit ce qu'il a à dire. Bon, écoutez, c'est sa parole. Vous vous doutez bien que. Je suis assez surprise quand même qu'un député de la République se permette de se comporter de cette façon-là et se permette effectivement des jugements qui sont absolument, je ne sais même pas comment les qualifier, ces jugements.
Mais il reconnaît lui-même qu'il a eu du mal à rentrer dans les habits de député.
Un collaborateur qui un jour est venu me voir parce qu'il avait besoin que je l'aide et je l'ai aidé. Je veux dire, on est chacun libre de penser ce qu'il pense. Mais moi, personnellement, je sais respecter les personnes. Et là, je pense que la façon dont il parle, il se permet de dire que je ne soutiens pas le hand. Hier, il était le seul avec une écharpe. Est-ce que vous croyez vraiment qu'aller assister à un match de hand avec une écharpe, c'était le seul avec son écharpe? Je peux vous dire que j'ai rencontré Rémi Lévy, j'ai rencontré Patrice Canaillé, ils sont venus tous les deux me voir dans mon bureau et nous avons parlé tous les trois. Et on était tombés tout à fait d'accord tous les trois que je ne ferai pas de commentaires. Parce que je pense que quand une affaire aussi importante arrive, personnellement, moi je suis toujours pour la présomption d'innocence, je pense que ce n'est pas la peine d'aller faire des commentaires à tort et à travers. Il faut rester sobre, attendre. Et j'ai été en accord avec Rémi Lévy et avec Patrice Canaillé de ne faire aucun commentaire.
Donc, évacuons la question, puisque effectivement,
je soutiens bien évidemment le club de hand.
Bien sûr, je ne vous ai pas posé la question, parce que la réponse, elle est de soi, évidemment. On change de sujet, mais parlons toujours de gouvernance. Est-ce que c'est vraiment judicieux d'accueillir maintenant les Verts dans la majorité municipale ?
Écoutez, François Hollande les a bien accueillis.
Oui, mais c'est pas un peu trop tard.
Il n'est jamais tard pour bien faire.
Oui, en même temps, sans son leader historique, sans Jean-Louis Roumégas.
Il n'est jamais tard pour bien faire. Et moi, je pense que François Hollande, justement, a accueilli les Verts dans sa majorité, dans le gouvernement. Et je pense que c'est normal. Moi, personnellement, vous savez que je souhaitais que les Verts rentrent dans la majorité dès 2008. Et je crois que c'était effectivement le bon moment. Vous savez, nous sommes... Parce que les gens... Le bon moment, c'est parce qu'il y a tout le monde pense aux municipales qui sont qu'en mars 2014. Attendez, hein, nous sommes en octobre 2012, donc quand même.
Un an et demi, quoi.
Voilà, on a un an et demi devant nous. Je pense que pendant un an et demi, je pense que c'est pas trop tard, pas du tout, d'autant plus qu'ils sont dans la majorité présidentielle.
Bon, ça, très bien. Alors, on va revenir, j'allais dire, ici-bas, à Montpellier, dans le Clapas. Si vous voulez bien, on va parler du mariage homosexuel. En janvier 2011, dans nos studios, si vous vous rappelez, vous avez pris date pour marier notre président de Divergence, Florent, avec son ami Tito. Ce fut fait virtuellement, certes, le 5 février 2012 à Gramont. Les temps ont changé et la loi sur le mariage homosexuel est en passe d'être votée. La porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, a même confirmé que ce serait à Montpellier que serait célébré le premier de ces mariages-là. Très bien. Mais la presse, comme les Parisiens, ne suit pas toujours les méandres de la vie politique provinciale. Or, il me paraît surprenant que l'annonce fût faite concernant le président de la LGP et de son ami. Quid de ce pauvre Florent et de Tito? Est-ce qu'ils n'avaient pas la préséance?
Là, je ne rentrerai pas dans ce débat de préséance, parce que je pense que c'est le problème essentiel pour moi, c'est qu'enfin la loi passe. C'est ça le principal. Je crois que là, il ne faut pas en faire un problème de priorité de personne. C'est la loi.
Et
je me suis battue, vous savez que j'avais fait cet appel de Montpellier, je me suis battue, je les ai mariés symboliquement, c'est tout à fait vrai. Le président de la République s'est engagé, Najat Belkacem s'est engagé, et donc nous étions juste en face de chez vous, là. Mmh. Et donc elle a proposé effectivement que ce premier mariage se fasse avec le président de la LGBT. Je crois que c'est pas le problème, c'est pas qui va être le premier couple, c'est pas là. Le problème, c'est que cela se fasse. Et moi, personnellement, dans la même journée, je peux très bien marier deux couples.
Exactement,
Je peux vous dire que dans la même journée, c'est avec beaucoup de plaisir que je...
Et pourquoi on n'en fait pas trois, ce jour-là?
Pourquoi
trois, à savoir. Florent et Petitot, mais aussi, quand même, la parité. Il faudrait un couple de
lesbiennes. Écoutez, faut-il encore qu'il y ait
Et finir par le meilleur d'entre tous, Vincent Autain, le président de la LGBT.
Faut-il encore qu'il y ait des candidates?
Oh!
Voilà, écoutez, non.
Écoutez, on vous les trouvera. Ce n'est pas un problème.
Moi, je vous dis, je n'en ferai pas un problème de personne. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est que la loi passe. C'est ça l'essentiel.
On pourrait le faire à la façon de la secte Moon. Un triple mariage.
Non, pas le même jour. Non, je peux, mais pas à la façon secte Moon.
Je plaisante.
Je pense que ça sera trop important pour ceux qui vivront ce moment-là.
Bien sûr. Non, voilà. Je veux dire que les trois soient le même jour. En même temps.
On peut le faire le même jour, il n'y a aucun problème pour faire ça le même jour. Mais je pense que chaque mariage qui se fera le même jour doit avoir son moment d'intimité propre et ne pas en faire un barnum. Parce que ça, personnellement, je n'apprécierais pas du tout.
Ça le sera forcément.
Non. Il faudra que ce soit... Il y ait quand même... là aussi, le respect des personnes. Excusez-moi, j'entends que ce moment-là soit un moment respectueux des personnes et qu'on n'en fasse pas un barnum.
Vous n'êtes pas pour le médiatiser
Ça sera médiatisé.
Et en profiter même pour faire une belle opération de communication pour la ville de Montpellier,
non ? Je ne suis pas là pour faire de la com. Excusez-moi, je me suis battue pour, là aussi, le respect des hommes et des femmes, les mêmes droits et mêmes devoirs. Voilà pourquoi je me bats. Moi, je ne me bats pas pour en faire de la publicité à Montpellier. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est de permettre à des hommes et à des femmes, effectivement, d'avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs et de ne pas être exclu par rapport à son orientation sexuelle. C'est ça mon voilà pourquoi je me suis battue. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est que la loi passe et de ne pas être exclu. Quand vous voyez qu'il y a des jeunes qui sont exclus, on parlait d'exclusion, qui sont exclus par leurs parents, parce que les parents découvrent l'homosexualité de leur garçon ou de leur fille, je ne peux pas accepter que des enfants soient exclus par les parents à cause d'une orientation sexuelle. Moi, je me bats pour ça. Et autrement, quels sont les... Moi, personnellement, je peux très bien marier deux, trois couples le même jour, c'est évident, mais chacune avec son moment d'intimité propre et avec le respect de la cérémonie de mariage. Parce que la cérémonie de mariage, c'est un moment
bien
important.
Bien sûr, bien sûr. Bon. Vous n'avez pas peur justement d'une récupération quelque part
parce moi, que... personnellement, je m'opposerais à une récupération.
Parce que vous savez que Vincent Rontin, malgré tout, est dans le cabinet de Jean-Pierre Moore.
Mais il travaille à la... Mais attendez, laissez Vincent Autain, respectez-le là où... Respectez Vincent Autain, il est effectivement...
Bien sûr, il travaille... Chacun travaille où il peut.
C'est très bien, il travaille à l'agglomération, je le sais très bien parfaitement, mais il ne faut pas confondre le travail et le travail, et puis et la vie privée.
Vous
ne confondez
pas qu'il y ait une tentative de récupération
non,
à ce niveau-là?
Non, je ne suis pas... Je n'irai pas... vous ne me ferez jamais rentrer...
Non,
monsieur, vous ne me ferez jamais rentrer dans cette récupération-là. Moi, je me bats pour le respect des personnes et je me bats pour qu'il n'y ait pas d'exclusion par rapport à l'orientation sexuelle qui est propre à chacun et à chacune d'entre nous. Et ce jour-là, j'entends bien que cette cérémonie soit respectueuse des hommes et des femmes qui seront devant moi.
D'accord.
Ça, c'est clair. Et la presse qui pourra venir, parce que ça va s'agiter, la presse sera tenue, bien évidemment, de respecter ça.
D'accord.
Ça, alors là, je vous assure que je m'y efforcerai.
Pensez-vous qu'aujourd'hui en France, la loi puisse ne pas passer ?
Non, aujourd'hui non. Non, ça parce que alors là, je crois que tous les députés, les sénateurs, enfin tous ceux qui font les lois sont pour. Donc il n'y a pas de raison que ça ne passe pas.
Alors, si on change, et pour terminer de sujet, encore pour revenir sur un sujet sur lequel on était, à propos des Roms. Parce qu'on a évacué les Roms.
Excusez-moi.
Peut-être un peu trop vite.
Non, mais moi je trouve qu'alors là, passer... Du mariage homosexuel au Rome, excusez-moi, ça me...
On est toujours dans l'exclusion, quelque part.
Oui,
non, d'accord. On est dans l'exclusion, quelque part.
Excusez-moi, c'est un peu troublant comme passage.
Non, mais là, il n'y a pas de réflexion dans la chose. C'est d'un sujet à l'autre.
Excusez-moi, le motif d'exclusion n'est pas le même.
Hein. Ah, ça, nous sommes entièrement d'accord. Mais en l'occurrence...
Ils ne sont pas exclus pour les mêmes raisons.
Comment est-ce qu'on peut faire dans une ville comme Montpellier ?
J'ai rencontré personnellement Monsieur le Préfet. Monsieur le Préfet est venu dernièrement en mairie de Montpellier avec son staff. Nous avons évoqué ce problème avec Monsieur le Préfet et nous avançons là aussi dans le respect des personnes. Mais les décisions que nous avons prises, je ne peux pas aujourd'hui vous en parler. Mais sachez que nous avons travaillé avec Monsieur le Préfet, ses services et les miens pour aller dans le sens du respect de ces personnes-là.
Bon,
voilà, mais je ne peux pas vous en dire davantage. Mais sachez que nous avons travaillé, le cabinet du préfet et mes services, nous avons travaillé ensemble sur ce dossier.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un problème qui est particulièrement difficile. Quoi.
Mais qui concerne partout. Et attendez, ça ne concerne pas Montpellier.
Bien sûr,
excusez-moi.
Bien sûr.
Ça concerne l'Europe. Excusez-moi, ça concerne les gouvernements, ça concerne l'Europe, ça ne concerne pas Montpellier.
Et là encore,
si chacun faisait un petit effort dans son territoire, peut-être que ça irait mieux. C'est le même problème que tout à l'heure.
Et y compris le gouvernement, que fait-il là-dessus ?
Je vous ai dit que j'ai travaillé avec M. le Préfet, je ne vous en dirai pas.
D'accord. Bon, voilà. Alors, puisque vous ne voulez pas nous en dire plus sur le côté des Roms, par contre, on peut parler quand même un petit peu du gouvernement.
Hein,
du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, de François Hollande. Partout ici comme ailleurs, on voit beaucoup de militants socialistes qui critiquent ouvertement François Hollande, son gouvernement et la politique menée. Sans langue de bois, est-ce que vous pensez que la nouvelle majorité est à la hauteur de la situation et surtout des espérances des Français, notamment du peuple de gauche?
Écoutez, ce que je crois surtout, c'est que depuis que ce gouvernement est arrivé, il faut reconnaître qu'il y a eu des annonces qui se sont succédées les unes après les autres, et ces annonces qui à chaque fois font état de licenciements. Et ne serait-ce que par exemple pour ce qui concerne Montpellier, à un moment donné on parlait de Virgin, puis après on a parlé surtout d'un dossier qui nous tient tous très à cœur, et avec aussi également avec le maire de Toulouse, c'est le dossier de Sanofi. Je ne citerai pas tout ce qui se passe sur le plan de l'Hexagone. Donc effectivement il y a eu une annonce qui s'est succédée de licenciements un peu partout dans l'Hexagone. Je vous annonce que ça c'est le résultat quand même de ce qui s'était passé dans le gouvernement précédent. Ce n'est pas du tout de la responsabilité du gouvernement d'aujourd'hui. Donc d'un seul coup il y a toutes ces annonces qui arrivent, de même que par exemple, il y a des annonces concernant le crédit immobilier. Croyez-moi que cela, ça m'inquiète énormément, parce que le crédit immobilier, c'est celui qui permet notamment de prêter aux familles les plus en difficulté pour accéder au logement. Donc tout ceci est le résultat de ce qui s'est passé dans le gouvernement précédent. Et le gouvernement d'aujourd'hui, croyez-moi, de se trouver d'un seul coup confronté aux difficultés financières, aux difficultés sociales, aux licenciements, croyez-moi que ce n'est pas en 3 jours qu'on peut résoudre tous ces problèmes. Et personnellement, je crois que ce qui est le plus qui me préoccupe le plus, et je comprends que les Français soient inquiets et soient angoissés, c'est que on nous dit croissant, on est en croissance zéro. Cela ne s'est pas produit depuis le taux de chômage que nous avons atteint aujourd'hui. C'est le taux qui ne s'était pas produit depuis 1999. Voilà. Donc depuis 1999, le taux de chômage aujourd'hui, jamais nous l'avions eu aussi élevé. Et effectivement, nous sommes à croissance zéro, nulle. Donc face à ça, les 30 Glorieuses, c'est terminé. On est dans des difficultés financières. Et je peux vous dire que les collectivités territoriales, nous allons être nous aussi en difficulté financière. Ce qui veut dire que dans la société dans laquelle aujourd'hui nous sommes, le chômage augmente, les difficultés financières sont là, mais il va falloir arriver à créer, on parlait d'exclusion, de la solidarité. Qu'est-ce que les Français nous demandent ? Ils nous demandent de l'emploi, ils nous demandent du logement. Ils nous demandent de la santé, tous les problèmes que nous venons d'aborder maintenant. Mais tout ceci, je crois qu'ils ont, Jean-Marc Ayrault a prévu progressivement de se sortir de l'état de l'état d'aujourd'hui dans lequel il se trouve. Et il a un échéancier sur le long terme pour arriver à redresser cette France à la fin du quinquennat. C'est ça le problème. Où en serons-nous dans 5 ans ? Aujourd'hui, l'état d'aujourd'hui, effectivement, je pense que personne ne pensait que d'un seul coup, il y allait avoir autant de licenciements qui sont arrivés des quatre coins de la France. Personne ne pensait que ça allait arriver de façon aussi intense.
Et alors qu'il y avait déjà, les chiffres en attestent, avant l'élection de François Hollande, pour aller vite, 10 millions de pauvres, enfin de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, tous ces licenciements dont vous faites état, ça va augmenter encore.
Nous sommes passés au-dessus de la barre des 10%.
La pauvreté, la misère.
Nous sommes passés au-dessus des 10% de chômage.
C'est-à-dire de gens... Oui, mais ça, c'est même un chiffre presque bidon. Parce que dans les 3 millions de chômeurs, en fait, tout le monde sait qu'il n'y a pas 3 millions de chômeurs, qu'il y en a beaucoup plus. C'est 3 millions de gens qui sont sans aucun emploi du tout.
Il y a 3 millions de chômeurs, mais il y a aussi surtout le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Voilà.
C'est ça,
et ça fait près de 10 millions, enfin même probablement un peu plus de 10 millions de personnes aujourd'hui, c'est-à-dire un Français sur 7, un Français sur 6, ce qui est considérable. Ça ne s'est pas vu depuis la fin du 19e siècle.
Je vous dis, le dernier chiffre, là, c'est 1999.
Oui, c'est ça. Donc là, il y a un véritable problème, mais un problème justement où on a des gens maintenant, mais en quantité, mais qui n'ont plus de quoi se nourrir. Ils ont, comme vous le disiez, qui n'ont plus de quoi se loger, qui n'ont plus de quoi se soigner. Là, on a une véritable misère. C'est-à-dire quelque chose qui relève presque du tiers-monde. Il y avait cette formule, où on avait baptisé ça du quart-monde. C'était joli.
Pas complètement. Parce que moi, j'ai fait de la médecine humanitaire à Madagascar, croyez-moi. Que c'est...
Oui, heureusement, non. Voilà. Non,
n'employez pas complètement ces termes-là.
On n'en est pas encore là.
Moi, j'ai fait la médecine à Madagascar. Je peux vous dire Madagascar, oui. Là, vous voyez ce que c'est.
Bon. Et là, dans une ville comme Montpellier, on a parlé de tout un tas d'exclusions. Il y a l'exclusion justement par le travail, enfin au niveau des chômeurs. Qu'est-ce qu'une ville peut faire pour ça ?
La ville, c'est pas la ville qui crée les emplois. Excusez-moi.
Ben voilà,
excusez-moi. La ville, ce qu'elle peut faire, c'est soutenir ses entreprises. Voilà.
C'est-à-dire concrètement. Par exemple, ça veut dire quoi une ville qui soutient ses entreprises ?
Une ville qui soutient, c'est celle-là, toute la politique économique qui est menée. Par exemple, quand j'ai amené, puisque tout à l'heure nous parlions des grès de Montpellier, nous parlions de la viticulture. Eh bien, aujourd'hui, sachez que j'ai amené mes viticulteurs des grès de Montpellier à Chengdu, et aujourd'hui, il y a un marché qui est ouvert et les viticulteurs aujourd'hui vendent du vin à Chengdu. Voilà un petit exemple. Dernièrement, vous savez que mes villes jumelles étaient présentes sur le site et il y avait le maire de Sherbrooke qui est donc au Québec. C'est l'exemple de Sherbrooke qui a fait qu'avec Armand Sibouni, nous avons créé l'Association nationale des familles de dons d'organes, parce que c'est à Sherbrooke qu'il existe l'Association canadienne des familles pour dons d'organes. Et bien avec le maire de Sherbrooke, nous avons décidé effectivement d'avoir des échanges économiques, que des entreprises de Montpellier puissent aller, et j'en ai parlé à M. Deljarry, le président de la Chambre de commerce, et aussi avec le président...
Candidat à la ville de Montpellier.
Candidat à la ville de Montpellier.
Monsieur, et
de voir des entreprises de Montpellier qui puissent s'installer au Québec, et de même des entreprises du Québec qui pourraient venir à Montpellier. Donc nous, on est un facilitateur, si vous voulez, par là, mais mais déjà, permettre à certains d'ouvrir des marchés, permettre à certains d'avoir des rencontres, je pense qu'à travers l'université, à travers l'hôpital, je peux vous dire que, par exemple, à Sherbrooke, il y a l'hôpital de Montpellier et les hôpitaux de Sherbrooke qui échangent au niveau des étudiants, qui échangent au niveau de... Je pense que c'est à partir de tout cela qu'on peut arriver à aider les entreprises. J'aide mes vignerons, voilà. D'accord. Par exemple.
D'accord. Un dernier petit mot au niveau de l'exclusion. Je repasse la parole à Annie Benazé parce que je crois que vous avez bien, très bientôt une action concrète sur Montpellier.
Oui, on a trois journées de solidarité, donc le 16 au cinéma Utopia, où donc on passe un film avec donc les associations, il y aura un débat. Il y a le 16 donc à la salle Rabelais, pareil, un débat aussi sur l'exclusion où il y aura des témoignages. Et le 17 octobre, donc, on sera, donc c'est la journée mondiale de lutte contre la misère, on sera donc sur l'esplanade à côté de la Comédie et il y aura donc la journée de lutte contre l'exclusion avec l'ensemble des associations. Il y aura donc, on invite donc les Montpelliérains à venir donc rencontrer ces associations qui font un travail extraordinaire et en même temps rencontrer aussi des exclus qui vont prendre la parole et il y aura donc la musique hein, avec qui sont partie des gens qui sont exclus aussi qui vont faire de la musique.
D'accord, bon bah voilà, bah, ça fait bientôt 90 minutes que nous palabrons et conversons autour des micros tout en divergeant. Merci Madame le Maire d'avoir relevé le défi en prenant la place de rédactrice en chef. Qu'est-ce que vous retenez de cet exercice et de nos débats?
Ben écoutez, moi, ce que je retiens, c'est que c'est très vivant, très dynamique. Moi, en tout cas, je voudrais d'abord remercier mes deux invités, le professeur Jacques Bringer et Madame Annie Benazé. Et vous remercier vous-même aussi de m'avoir invité. Parce que, dans le fond, on s'aperçoit, nous sommes plusieurs personnes, plusieurs individus issus d'origines totalement différentes. Et à travers nos opinions qui sont divergentes, n'est-ce pas, Monsieur le comment vous appelez comment vous monsieur?
Ah bah c'est le loup, monsieur, c'est le loup, mais c'est...
Voilà, monsieur le loup. à travers nos opinions qui peuvent être divergentes, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Le débat et nos opinions divergentes nous enrichit et je crois que je les remercie tous les deux d'avoir répondu à mon invitation parce que les opinions qu'ils ont données, je pense, sont très intéressantes et en tout cas, je l'espère pour nos auditeurs.
Voilà. Pour terminer, on voulait vous demander un petit conseil. Qu'est-ce que vous penseriez d'une implication réelle, limite hebdomadaire, des membres de votre conseil municipal des jeunes dans l'émission? À savoir, ils découvriraient un média de l'intérieur, pratiqueraient quelques reportages, ou encore ils pourraient être le poil à gratter de notre rubrique droit de réponse.
Pourquoi pas? Peut-être que vous découvrirez des vocations comme
et,
ça.
Oui,
et vous créerez un emploi.
Pourquoi pas? Et puis aussi les former, ce conseil municipal des jeunes à la prise de contact avec un média, de voir comment ça fonctionne de l'intérieur.
Et puisque vous me parlez du conseil consultatif des jeunes, je voulais vous dire que j'ai décidé, ça c'est Cédric Sudre qui a la délégation, j'ai décidé il y a un an de créer un conseil consultatif des étrangers résidant à Montpellier depuis plus de 5 ans. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et donc, ce conseil consultatif des étrangers vivant à Montpellier depuis plus de 5 ans devrait se tenir pour la première fois au mois de fin novembre. Et c'est puisque vous me dites, vous me parlez de ça. Voilà. Voilà un conseil qui, à mon avis, sera aussi très important. Écouter la parole.
Et qui participe de la lutte contre l'exclusion.
Voilà. Voilà. Donc, ça va se faire à la fin novembre.
On tous un chèque, ce qui est.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.